Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, IVG, LGBT, la France est-elle un modèle à suivre? Et Macron diplomate, le coup d'éclat permanent? Et nos débatteurs ce dimanche, Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle, c'est votre dernier ouvrage publié chez Talendier. Brice Couturier, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Collaborateur au magazine Le Point, l'entreprise face aux revendications identitaires, c'est votre dernier ouvrage au PUF. Magali Lafourcade, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Il y avait bien tous les trois pour l'instant. Prononcez mon nom, je veux dire, un magistrat de vous. Secrétaire général de la CNCDH, les droits de l'homme, c'est votre Que sais-je qui est paru au PUF. Et puis Bertrand Badi, bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
Professeur en relations internationales, il n'a pas tenté, hein, c'est pas facile à prononcer. Pour une approche subjective des relations internationales, c'est votre dernier ouvrage chez Odile Jacob. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur les propos d'Emmanuel Macron à propos de l'Ukraine et de la Russie. Ne pas écarter l'envoi de troupes, ne pas céder à la lâcheté. Des propos qui bousculent en France et en Europe, c'est le but. Mais est-ce que c'est efficace? Nous en débattrons, mais tout de suite, notre premier sujet.
Pardon aux personnes homosexuelles de France qui ont subi 40 années durant cette répression totalement inique. Notre République n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle sait reconnaître qu'elle a perdu le fil de ses principes fondateurs. La liberté, l'égalité, la fraternité.
Voilà, et des mots rares que se prononçait mercredi soir par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, la République qui demande pardon aux personnes poursuivies en raison de leur homosexualité entre 1942 et 1982. La loi portant reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les homosexuels a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Un geste fort pour une reconnaissance qui n'est pas que mémorielle. Comme l'a rappelé le rapporteur du texte, c'est parce que l'homophobie parfois décomplexée perdure dans notre société que nous devons voter cette proposition de loi. Réparer donc, mais aussi prévenir. Et c'est un peu la même logique qui a présidé à l'inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l'intervention volontaire de grossesse. Une première mondiale, la remise en cause du droit à l'IVG aux États-Unis a servi d'électrochoc dans un pays, la France, où ce droit ne paraissait pourtant pas menacé. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Plus rien n'est acquis et tout est à défendre, a déclaré Emmanuel Macron vendredi lors du scellement officiel de la loi constitutionnelle. Prochaine étape, le président français souhaite que la liberté de recourir à l'IVG soit inscrite dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors le chef de l'État n'est pas le premier à vouloir marquer son mandat sur le terrain sociétal. VGE a dépénalisé l'IVG, Mitterrand a aboli la peine de mort, Hollande a autorisé le mariage gay. Macron, lui, entend porter le fer au-delà de nos frontières. « Nous ne trouverons le repos », a-t-il déclaré, « que lorsque cette promesse, celle du droit à l'avortement, sera tenue partout dans le monde. » Mais la France est-elle légitime à vouloir servir de modèle sur ces questions? Magali Lafourcade, je commence par vous. En devenant le premier pays au monde à constitutionnaliser l'IVG, est-ce que la France a envoyé un message politique important au monde entier?
Ah oui, ça, cela me paraît assez indéniable. D'abord, la cérémonie de scellement était extrêmement émouvante et on voyait que c'était vraiment au cœur du discours du président de la République, c'était d'envoyer ce message-là. Et ce message, il n'est pas vain puisque aujourd'hui, dans le monde, 40% des femmes en âge de procréer vivent dans un état qui l'interdit, l'IVG, ou qui le limite tellement qu'il n'y a quasiment que des IVG clandestins. Et l'avortement clandestin, c'est la troisième cause de mortalité chez les femmes qui vivent dans ces pays-là. Donc on voit que ce message, il est extrêmement puissant à envoyer, il va susciter d'innombrables débats. Toutefois, il ne faut pas se leurrer. Cette cérémonie était très forte à cause de ce message envoyé au monde. Mais concrètement, l'IVG en France, ça ne va pas très bien. Quand on regarde les chiffres, il y a 130 centres d'IVG qui ont été fermés en 15 ans selon le planning familial. Il y a des inégalités d'accès sur le territoire. Il y a très peu de médecins qui le pratiquent. Et puis quand on parle globalement de cette diplomatie qu'envoie la France dans le monde, elle est extrêmement puissante. On l'a vu sur l'homophobie, la haine des personnes qui se sont engagées dans un parcours de transidentité. Il y a un vrai message aussi que la France investit sur ce terrain-là, avec un diplomate, Jean-Marc Barton, qui est extrêmement efficace dans cette lutte pour dépénaliser l'homosexualité.
Alors Jean-Marc Barton, voilà, c'est l'ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+.
Voilà. Et pour avoir travaillé avec lui, je peux confirmer qu'il est extrêmement efficace et actif.
On apprend au passage d'ailleurs que la France a un ambassadeur sur ces questions.
Voilà, c'est nouveau, hein, c'est un nouveau mandat. Toutefois, là aussi, on peut dire qu'au niveau national, là non plus, ça ne va pas très bien. En 2020, alors qu'on a 23 critères de discrimination inscrits dans la loi, il y a eu zéro condamnation dans notre pays. Nous n'avons pas véritablement de politique pénale de lutte contre les discriminations, et les discriminations liées à l'orientation sexuelle, elles sont importantes. Et puis alors après, juste pour le dire, parce que la France est aussi engagée dans une diplomatie féministe qui est extrêmement ambitieuse, elle révise en ce moment sa stratégie féministe de la France, donc à l'étranger, en projection, et c'est extrêmement important, ça a un effet massif de contagion sur d'autres pays pour que le genre soit un levier de transformation. Mais quand on regarde les violences sexuelles et sexistes en France, elles sont massives, il y a une vraie impunité. Et puis les écarts de rémunération, on a fait le point avec le 8 mars, l'Eurostat considère qu'il y a un quart de moins que dans les salaires des femmes par rapport à ceux des hommes, et les pensions, c'est 40% de moins. Donc on peut dire que le bilan au niveau national est quand même pas exceptionnel, il est même pas terrible. En tout cas, il va pas forcément toujours dans le bon sens, alors que le bilan dans la diplomatie, dans ce qui est envoyé au monde, est extrêmement positif, et on peut dire que là, on est pionnier, on est à l'avant-garde.
Est-ce que vous partagez ce bilan contradictoire que vient de faire Magali Lafourcade, Brice Couturier, c'est-à-dire donc une diplomatie sur les discriminations très active, et en France une plus grande difficulté à appliquer peut-être ces principes?
Oui, je vais vous étonner, je suis assez d'accord avec la France insoumise sur ce sujet-là.
Je ne suis pas la France insoumise.
Non, mais je ne parlais pas de vous.
Ouais. Mais en tout cas, vous nous étonnez, ça c'est sûr.
Oui, il y a le droit à l'avortement, l'IVG, c'est à la fois un droit liberté et c'est un droit créance. En tous les cas, ça devrait l'être. C'est bien gentil de proclamer, de graver dans le marbre, pourquoi pas aller le graver sur la face cachée de la Lune, le droit à l'avortement, si en réalité il est difficile à pratiquer. On se moque des États-Unis où la Cour suprême a renversé sa jurisprudence de l'époque 1973 en autorisant les États à limiter ou à interdire l'IVG. Mais il faut reconnaître qu'en France, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que dans certains départements français, il est quasiment impossible de se faire avorter quand on le désire.
Quand vous dites droit créance, c'est ça, c'est-à-dire
voilà, un droit créance, c'est un droit qui donne à une personne les moyens, enfin qui oblige la puissance publique à donner à une personne les moyens d'une liberté qu'on lui octroie. Une liberté n'est rien si elle n'est pas suivie des moyens de l'exercer. Or, en l'occurrence, il faut reconnaître que nous ne sommes pas si merveilleux que ça en France. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Par contre, je vous dirais franchement que quand j'ai vu cette inscription dans la Constitution, je me suis dit « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Il faut savoir que dans notre pays, 82% des Français sont favorables au droit des femmes à se faire avorter, et que le Congrès l'a voté à plus de 90%, qu'il n'y a aucun parti politique en France pour le moment qui remette en cause le droit à l'avortement. Donc il y avait un aspect symbolique, il y a un aspect politicien, évidemment, c'est gros comme une maison. On voit bien que les élections européennes se profilent et que, hélas, probablement le parti présidentiel n'est pas le mieux placé pour les aborder. Donc là, on va chercher un peu l'électorat de gauche, puisqu'il a été un peu déçu, mettons, par la composition du gouvernement actuel. Donc oui, l'aspect politicien, à mes yeux, gâche un peu la fête, vous voyez.
Bertrand Badie.
Oui, ben, je crois qu'on est d'accord autour de cette table. L'effet d'annonce, évidemment, on approuve tous, parce que c'est fondamental pour le droit des femmes, et il ne faut quand même pas négliger l'importance de l'énonciation. C'est-à-dire, l'action, elle commence à partir du moment où il y a une vraie prise de conscience d'un problème. Et c'est sûr que l'inscription dans la Constitution participe de cet effort de prise de conscience collective. On le voit bien dans le discours, dans les propos tenus, que cette prise de conscience a gagné des points, a avancé dans l'opinion publique française, dans les médias, dans le débat général. Ça, c'est l'aspect positif que, je pense, comme le disait Brice il y a un instant, peu de gens peuvent véritablement contester, sauf sous forme de ces contestations souterraines que l'on trouve dans des milieux intégristes et conservateurs.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, sauf à contester le principe même de liberté.
Voilà, oui, mais qui se fait grâce, justement, à cette pression positive de plus en plus discrète. Il faut bien l'admettre. Ceci étant posé, il y a quand même toute une série de choses qui posent problème derrière tout cela. La première et la plus évidente, c'est que vous annonciez tout à l'heure, parmi les grands moments de progrès de l'humanisme et des droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort par François Mitterrand et Robert Badinter. Oui, mais c'est pas la même chose. Lorsque l'État décide d'abolir la peine de mort, il n'y a plus de peine de mort. Lorsque l'État décide d'instituer, de reconnaître même constitutionnellement l'IVG, ça ne veut pas dire que chacune des femmes qui demandent l'IVG seront satisfaites dans leur demande. Ça n'abolit pas non plus, ce qui est une dimension terrible, l'humiliation qui accompagne la démarche, c'est-à-dire effectivement aller quêter auprès d'autorités médicales qui vous regardent de très haut ce droit qui est un droit constitutionnel. Ce qui veut dire que il faut savoir faire une différence entre ce qui relève de la compétence exclusive de l'État et ce qui relève des comportements sociaux. Je pense que du point de vue des comportements sociaux, les progrès, les avancées sont beaucoup moins nettes. Et cela m'amène à un autre point, qui est d'abord de dire que très bien d'inscrire ce droit dans la Constitution, il ne faut pas oublier qu'une Constitution, elle peut être révisée. Qui abolirait aujourd'hui le droit à l'IVG, sinon qu'un gouvernement extrémiste qui se donnerait les moyens de gouverner par la force et qui trouverait les moyens de procéder d'une manière ou d'une autre à une révision constitutionnelle. Donc le saut n'est pas aussi qualitatif qu'on le dit.
Et par ailleurs, d'ailleurs, la constitutionnalisation n'empêche pas de modifier les conditions d'accès à l'IVG.
Absolument, absolument. J'ajoute à cela, moi, deux, trois aspects qui m'ont gêné. Je vais être rapide. Lorsqu'on fait de l'annonce, monsieur de la Palice en dirait autant, on fait de la communication politique. Et la communication politique, elle est pleine d'effets pervers. C'est ce que Brice signalait il y a un instant. C'est-à-dire, notamment, le propre de la communication politique, c'est de servir les fins de celui qui communique. Et là, de ce point de vue, je trouve qu'il y avait un degré de trop dans cette espèce d'appropriation politique d'un geste d'annonce qui aurait dû se situer à un niveau plus élevé. J'ai pas été convaincu, c'est ma petite différence avec Magali, par cette cérémonie qui avait même, ça m'a mis mal à l'aise, je dis pas choqué, mais mis mal à l'aise, ce côté kafkons de faire un pastiche de la Marseillaise à un moment, dans une cérémonie qui se voulait solennelle. Tout ça m'a paru un peu étrange.
Le pastiche, puis, c'est référence à Catherine Ringer.
Oui, qui a chanté, assez faux voilà, d'ailleurs, une chanson voilà, qui était...
Une version un peu remaniée de la Marseillaise.
Voilà. De la République, tout féminisé d'un coup, et ça faisait bizarre dans une cérémonie si solennelle. Et tout dernier point quand même que je voudrais dire, attention au terme modèle. Nous sommes des grands marchands de modèles. Nous voulons offrir des modèles à tout le monde. Et des modèles S, M, L, XL et tout ce qu'on en veut, il faut faire très attention à ça. Parce que ce qui compte, c'est les histoires de chacun. Chaque peuple avance dans ses conquêtes, de liberté, au rythme de son histoire et de sa subjectivité. Et donc, vouloir ainsi dire, regardez-moi, on est plus beau que les autres, ça a quelque chose d'irritant qui peut être contre-performant, notamment dans ces milieux conservateurs qui renaissent de Moscou jusque dans les pays du Sud.
Vous êtes d'accord avec ça, Thomas Gomard? Quand Emmanuel Macron dit maintenant la prochaine étape, c'est inscrire la liberté de recourir à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est se voir plus beau qu'on est? Ou bien est-ce que c'est quand même pas nécessaire que y ait des pays, et pourquoi pas la France, qui prennent aussi le leadership sur ces questions-là, qui sont des questions importantes?
Pour préparer l'émission, le parallèle qui m'est venu va peut-être vous surprendre, mais c'est celui avec l'élargissement de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous avez cette dialectique avec l'Union européenne. Faut-il davantage élargir, aller plus loin, ou faut-il approfondir? Et je trouve que notre discussion, en fait, sur cette question-là, tourne autour de la même dialectique. C'est-à-dire que le décalage entre le discours que l'on veut pour l'universalisme et les autres et la réalité de la situation chez nous, on a mentionné déjà Robert Badinter dans la discussion, qui avait l'habitude de dire « La France, ce n'est pas le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme ». Et Magali Lafourcade l'a rappelé. Moi, ce qui me frappe, par exemple, sur le débat sur la loi là, en préparation depuis tant de temps sur la fin de vie, en fait, c'est aussi une réponse parce qu'il y a un accès aux soins palliatifs qui n'est pas possible. Hein, pour faire un parallèle avec ce qui a déjà été dit sur l'IVG. On pourrait dire la même chose de l'état des prisons dans les deux sens, c'est-à-dire la manière dont on traite les détenus ou au contraire la manière dont la justice n'est pas rendue pour les victimes. Autrement dit, ce décalage est quand même très problématique, je trouve, entre la charge symbolique que l'on donne à ce type d'événement et la réalité politique qu'on peut observer sur un certain nombre de sujets qu'on pourrait continuer à lister. Et puis, avec Gadette, dans votre introduction, vous avez cité j'avais pas cette citation du président Macron en tête, mais s'il a dit porter le fer au-delà de nos frontières sur des questions de modèle, ben, je vais rejoindre Bertrand Badie pour le coup. C'est-à-dire que moi, je suis aussi assez surpris par ça. C'est-à-dire que ça fait écho, si vous voulez, à promouvoir la démocratie à l'extérieur.
Juste un président, porter le fer, ça c'était mes mots à moi.
Hein. Oui, parce que j'étais
lui,
un peu
surpris. Lui, c'était « Nous ne trouverons le repos que lorsque cette promesse sera tenue partout dans le monde ».
Voilà, c'est quand même très différent, effectivement. merci de la correction et de ne pas confondre Emmanuel Macron et Hervé Gardette. mais le point important, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que ça fait aussi écho à « Nous allons promouvoir la démocratie partout dans le monde ». Et d'ailleurs, s'il le faut, à coup de bombe. Bon. Ou alors nous allons promouvoir des modèles qui peuvent effectivement créer beaucoup de réactions et de crispations. Non pas qu'on ne soit pas convaincu dans notre propre système de leur validité, mais de vouloir les imposer et d'en faire, je pense que ça nous renvoie à notre prétention universaliste. Et qu'elle est en réalité, à mon sens, discutable à partir du moment où cette prétention universaliste n'est pas appuyé précisément sur un modèle qui fonctionnerait parfaitement chez nous.
Avoir une prétention universaliste, ça ne veut pas forcément dire être prétentieux sur l'universalisme, Magali Lafourcade.
Justement, je voudrais réagir à ce dernier propos, puisque donc une des choses que j'ai trouvées les plus bouleversantes dans la cérémonie de vendredi, c'est
donc était celle du scellement de la loi constitutionnelle.
C'était justement que peut-être pour la première fois, on pouvait prendre conscience que les droits des femmes, qui sont souvent vus un peu en mode dégradé, comme si c'était une sous-catégorie de droits qui était moins fondamentale que les droits de l'homme, et qui était surtout renvoyée à ça n'intéresse qu'elle, les filles et les femmes, quelque chose de très spécifique. Là, avec l'introduction des droits sexuels et reproductifs dans la Constitution, on a envoyé quand même comme message que les droits des femmes, dès lors qu'on parle des droits fondamentaux, ils sont au même niveau que l'ensemble du corpus des droits humains, c'est-à-dire qu'ils sont universels, les droits des femmes sont universels. Ils sont interdépendants, ils sont exigibles auprès des États. Et c'est là où je rejoins à la fois Brice Couturier, Bertrand Badie et Thomas Gomard, je vais faire vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Universaliste, hein, jusqu'au bout,
voilà,
Marie Lafourcade.
C'est que ce qui était gênant, et dans cette, c'est la terminologie qui a été utilisée. La loi détermine les conditions de cette liberté garantie aux femmes. Finalement, pourquoi on a eu un tel consensus ? C'est qu'on était sur une loi garantie. Ça n'a rien à voir avec un droit. C'est ce que
disait... Oui, il n'y a pas de nouveau droit dans cette loi constitutionnelle.
Tout à fait. C'est un fait. Les féministes, comme la CNCDH, voulaient inscrire dans la Constitution un principe de non-régression. Or, ce n'est pas ce qu'on a obtenu. On a obtenu juste que le mot IVG soit dans la Constitution. Donc, il faut changer la Constitution, ce qui est quand même un peu plus difficile qu'une loi, pour pouvoir l'enlever. Par contre, en mettant dans l'article 34, qui définit le domaine de la loi, les conditions, en disant que la loi détermine les conditions d'exercice d'une liberté garantie, ça veut dire que n'importe quel gouvernement, dès lors qu'il a une majorité, peut faire passer une loi de régression en retirant, donc on sait bien comment ça se passe, on a vu ça en Pologne, on a vu ça en Hongrie, on a vu ça dans plein de pays, ça veut dire retirer les financements au centre d'IVG, réduire les délais pour pouvoir courir à l'IVG, et puis réduire les conditions. Et donc tout ça donne une impression que finalement, on n'a pas obtenu grand-chose, si ce n'est ce symbole fort, oui, qui est mais un symbole justement envoyé au mouvement anti-droit, qui sont eux très structurés.
Magali Laforcade, sur la question du symbole, puisqu'on faisait un petit peu aussi le constat que, alors certes, il y a des choses qui sont du domaine de l'État, peut-être pour améliorer l'accès à l'IVG, mais il y a aussi des choses qui sont de, on va dire, de la société plus largement, et d'accepter ou pas que l'on avance plus ou moins vite sur certaines questions sociétales. Et là, je fais le rapprochement aussi avec ce qui s'est passé donc à l'Assemblée nationale avec Éric Dupond-Moretti, donc, et cette loi de réparation des préjudices subis par les homosexuels et ce pardon de la République. Est-ce que c'est pas aussi important les symboles pour changer les mentalités? C'est-à-dire, c'est peut-être pas des nouveaux droits, mais c'est aussi des indications qui sont données aussi à l'ensemble de la communauté nationale.
Oui, tout à fait. Cela dit, quand même, on peut se demander comment ça se fait que ce soit que maintenant qu'on a une loi de réhabilitation. L'Espagne l'a fait en 2007 avec une indemnisation qui n'était pas ridicule. Il y a eu le Canada, il y a eu le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche. On arrive un peu tard. Et puis, on peut pas dire non plus qu'on a une politique très audacieuse sur la défense des droits des personnes LGBT. Il y a un plan national d'action. Il n'y a toujours pas de comité de suivi qui a été mis en place. On peut quand même le déplorer. La mobilisation de l'État n'est pas tout à fait au rendez-vous des ambitions affichées.
Bertrand Badie, ensuite Brice Couturier.
Oui, je voudrais juste revenir sur deux points. Le premier, c'est de distinguer symbole et comportement. Je crois que c'est très très important. L'élément positif, on est tous d'accord, c'est effectivement que de plus en plus, et pas seulement par cette dernière étape, le droit à l'IVG, le droit des femmes de disposer de leur corps est quelque chose de conscientisé, pardon de ce terme, mais je crois que c'est celui qui exprime le mieux cette réalité. Et là, de ce point de vue-là, ça fait reculer les modèles alternatifs, quoi, en quelque sorte. Mais ce n'est pas pour autant que l'on touchera au comportement. Peut-être même, d'un certain point de vue, les radicaliserons cette pratique. Je veux dire par là que...
Mais regardez les sénateurs, il y a un certain nombre de sénateurs par exemple, de droite qui disent on était contre cette constitutionnalisation, on a parlé avec notre entourage, on s'est rendu compte qu'il fallait le faire. Donc ça peut aussi avoir une vertu pédagogique, non?
Mais ça, c'est incontestable. Ce que je voudrais dire, c'est que du coup, les réserves, les réticences, les hostilités à ce droit basculent dans l'espace privé, c'est-à-dire dans les choix individuels des praticiens de la médecine, des familles, des parents, je ne sais, des voisins, des amis, de ceux qui vont jeter des quolibets ou le discrédit sur la personne qui aura fait ce choix. Donc, c'est extrêmement difficile sur le plan des politiques publiques de pouvoir atteindre les comportements. On peut gérer les symboles, et ça c'est quelque chose de très positif, mais il est extrêmement difficile de gérer les comportements, de même qu'on n'abolira jamais dans la tête de certaines personnes l'idée que la peine de mort c'était bien, etc. Bon, la seule différence c'est que ces gens qui pensent ça ne peuvent pas rétablir la peine de mort. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est à propos de l'universalisme. Il faut pas se tromper sur ce qu'est l'essence même de l'universalisme, et notamment sur ce problème extrêmement important du droit des femmes. L'universalisme, c'est pas de vendre au monde un modèle unique. L'universalisme, c'est ce trait universel, peut-être est-ce le seul trait réellement universel dans notre monde actuel, qui est la lutte pour l'émancipation, le droit de résistance. C'est la seule vertu véritablement universelle. Et quand les femmes en Iran, dans une situation de danger extrême, descendent dans la rue, arrachent leur voile, se coupent les cheveux, viennent bousculer les mollahs et jeter à terre leur turban, ça, c'est un comportement universaliste, c'est-à-dire partout dans le monde, les femmes ont ce même réflexe de revendication d'un droit. Partout dans le monde, les humains ont cette revendication de l'émancipation. Mais c'est tout à fait autre chose que de dire, j'ai le mode d'emploi tout fait, le prêt-à-porter de ce droit, et je vais vous l'offrir. Le chemin qui mènera les femmes à conquérir leurs droits ne peut pas être le même en France, en Iran, en Chine, en Afghanistan ou au Soudan. Et ça, c'est quelque chose que notre Sainte République n'arrive pas à comprendre. Et c'est quelque chose qui gênait dans cette espèce d'étalage auquel on a assisté.
Où est-ce que tu riais ?
Là, je suis en léger désaccord avec Bertrand Badi.
Ah.
Enfin. Moi, j'estime que les droits de l'homme sont universels, qu'ils ont une portée universelle, et que c'est pas parce que, par hasard, ils sont nés probablement en Europe au XVIIIe siècle et pendant les Lumières, qu'il faut les refuser dans certains pays sous prétexte de traditions locales.
Ah, j'ai jamais dit ça.
Non, mais quand vous dites Bertrand Badi qu'il faut pas les imposer sous la forme de notre modèle, je vois arriver le moment où certains tiers-mondistes nous ont dit dans les années 80 que les mutilations génitales des femmes faisaient partie des traditions locales, de la culture locale, et que chercher à les interdire faisait partie d'une forme de néocolonialisme occidental. Moi, je pense que les droits de l'homme ont une portée universelle, qu'ils ne sont pas le propre de l'Occident, qu'ils sont l'aspiration de tous les peuples du monde, qu'ils le sachent ou non, et qu'il est bon de les promouvoir par tous les moyens, y compris, comme on le faisait autrefois dans notre diplomatie, en conditionnant certaines aides à des avancées dans le domaine des droits de l'homme, parce qu'encore une fois, ils ne sont pas une spécificité occidentale, mais qui sont une aspiration universelle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Puisque vous êtes interpellé, répondez, Bertrand Badi.
Vous ne vous adressez pas à Bertrand Badi en disant ça, vous adressez aux tiers-mondistes des années 60 et 70. Moi, je n'ai pas du tout dit ça. Simplement, il faut expliciter ce que l'on entend par droit universel. D'abord, universel est un terme qui ne fait sens que si tout le monde le construit ensemble. Et c'est en cela que tous ces mouvements qui naissent partout dans le monde, et il n'y a pas de pays où ils n'existent pas, c'est en tenant compte de la dynamique de chacun d'entre eux, et non pas en offrant une sorte de mode d'emploi a priori, que l'on pourra faire avancer la question. Bien sûr.
Nous avons parmi nous la secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je vous laisse conclure sur ce sujet,
Magalia Fourcade. Sur l'universel, de toute façon, quand on rencontre des défenseurs, donc ceux qui utilisent les droits qui ont été consacrés pour pouvoir les défendre et pour pouvoir s'en servir, ça devient tellement évident quand on rencontre ces personnes-là. S'il n'y a pas un être sur cette terre qui ne revendique la reconnaissance de sa dignité, c'est ça l'universel. Et alors si les déclarations des droits de l'homme sont nées en Occident à une période donnée, il n'en demeure pas moins que les droits en eux-mêmes n'ont pas été construits et inventés à ce moment-là. Ils recouvrent toutes les tragédies qui, dans l'histoire de l'humanité, et sous toutes les latitudes du monde, ont conduit les êtres humains à se dire qu'il fallait poser des interdits, des lignes claires et éventuellement même des directions vers lesquelles s'engager.